ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le fond change là, c'est pas choqué.
Good morning Tours.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Tours, il est 7h15, c'est l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes le vendredi 17 octobre et c'est le début de 50 minutes d'émission. Au programme d'aujourd'hui, le gouvernement Lecornu résiste et évite de peu la censure des députés. Pour l'occasion, Jules Frécon est allé prendre la température auprès des commerçants tourangeaux. On prendra également la direction du Pérou, où la colère sociale a récemment enflammé les rues du pays sud-américain. Aux États-Unis, la Californie adopte une loi pour encadrer l'intelligence artificielle, une première dans le pays. Et puis, détour par Shanghai, où le monégasque Valentin Vacherot s'impose au Master 1000 face à un adversaire qu'il connaît bien. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info présenté par Angelina Richard.
Le gouvernement Lecornu reste. Hier, l'Assemblée examinait deux motions de censure à l'encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu, alors qu'il avait annoncé ne pas user du 49.3 et suspendre la réforme des retraites mardi. Le Premier ministre s'est alors avancé au pupitre de l'Assemblée pour convaincre les groupes qui doutaient encore, comme le PS ou une partie de la droite. Marché réussi, puisque les deux motions n'ont pas atteint le nombre de députés requis. Au procès jubilaire, après trois semaines d'audience, le verdict attendu aujourd'hui. Cédric Jubilard est accusé d'avoir tué sa femme Delphine Jubilard il y a 4 ans. Les avocats généraux ont requis 30 ans de réclusion criminelle à son encontre. Le jury doit désormais trancher. Bien que le Hamas ait réaffirmé son engagement envers la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu à Gaza, Israël les accuse pourtant de violer les accords en continuant à retenir les corps de 19 otages. À Washington, l'ambassadrice d'Ukraine accuse Moscou de saboter les efforts de paix. Selon elle, la Russie a choisi les missiles plutôt que le dialogue, après une nouvelle vague de frappe qui a plongé une partie du pays dans le noir la nuit dernière. Des attaques qui interviennent alors même que Donald Trump salue les progrès de ses discussions avec Vladimir Poutine. Le Paris Saint-Germain a de nouveau chuté hier à domicile face au Real Madrid. Lors de la deuxième journée de phase de Ligue des Championnes féminines, les joueuses se sont inclinées 2-1.
C'était le flash information de la rédaction présenté par Angelina Richard. Le gouvernement vacille, mais tient bon. Sébastien Lecornu, fragilisé depuis plusieurs jours, a finalement conservé son poste ce matin après le rejet des motions de censure déposées séparément par la France Insoumise et le Rassemblement National. Un vote qui s'est déroulé au sein d'une Assemblée nationale profondément divisée. Alia Trabelsi nous en dit un petit peu plus.
C'est la France Insoumise avec Aurélie Trouvé, députée de la Seine-Saint-Denis, qui a directement attaqué la matinée en évoquant le gel de la réforme des retraites. Selon elle, ce ne serait qu'un leurre, une tromperie, et mènerait, selon ses mots, la France tout droit dans un désastre économique. Quelques minutes plus tard, c'est Marine Le Pen qui a pris la parole pour le Rassemblement national, en évoquant notamment un budget qui ne répond pas à une immigration qu'elle qualifie comme d'or de contrôle. Et s'il y avait bien un groupe capable de faire basculer la tendance ce matin, c'était les socialistes. Et même si certains députés n'ont pas suivi la consigne d'Olivier Faure, celle de ne pas voter la censure, une forte majorité l'a respectée. Le député socialiste Laurent Baumel l'a toutefois précisé, ce n'est en aucun cas un pacte de non-censure. Un argument qui, pour l'instant, a permis de sauver le gouvernement.
Un nouveau gouvernement sauvé donc de justesse et un vote du budget qui se profile à l'horizon. Mais qu'en pensent les commerçants? Jules Frécon s'est rendu au marché des Halles en plein cœur de Tours et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas forcément optimistes.
Pendant que certains commerçants commencent à remballer leurs étals, Nisa s'active. Elle coupe des navets pour son couscous. Nouveau gouvernement ou non, le travail continue et la commerçante est fataliste.
Depuis ce matin, je suis sur le marché, j'ai plus que 2 clients. C'est pire en pire. C'est pire en pire. On paye l'ORSSAF, on paye la cotisation, on paye sur le marché, on paye l'achat. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Moi, je suis veuve avec 2 enfants. Il y a des mois qu'au moins, il ne me reste rien.
Quelques mètres plus loin, il reste quelques baguettes sur les tables de Clarence. Il vend du pain bio et remarque une baisse de fréquentation des marchés depuis plusieurs années. Il ne croit pas que le maintien du nouveau gouvernement ou le retour du dialogue au Parlement puisse changer les choses.
Là, l'idée, c'est de ceinturer un peu pour,
pour récupérer du budget et de taxer les gens précaires plus que les gens qui ont de l'argent. Donc en fait, ça va pas redonner du pouvoir d'achat aux gens, c'est pas du tout ça l'objectif.
De nombreux commerçants présents ce matin au marché des Halles estiment ne pas être entendus par l'État. Kader, qui vend des spécialités marocaines, exige que le gouvernement agisse.
Qu'ils soient près des petites entreprises, pas toujours que les grandes. Et voilà quoi, les gens d'en bas, il faut les regarder aussi.
Avant de remballer ses affaires, Kader avoue son pessimisme. Il souffle. Vivement 2027, qu'on passe à autre chose.
C'était un reportage de Jules Fréconce sur le terrain. Merci Jules. Il est 7h22 et on va marquer une petite pause musicale avec le titre « Ancré à ton port » de Fanny J. Pas de pied ? Y'a pas de pied ? Non, je... C'était la pause musicale avec Ancré à ton port de Fanny J. Vous êtes toujours à l'écoute de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours sur Radio Campus. Il s'agit d'une première aux États-Unis. En Californie, une législation encadrant l'usage d'agents conversationnels qui font appel à l'intelligence artificielle a été adoptée lundi 13 octobre dernier en réaction à de nombreux suicides d'adolescents. Clara Danry nous éclaire sur le sujet.
En effet, Youn, c'est un événement inédit pour le pays leader dans le domaine de l'IA. Le gouverneur démocrate, Gavin Newsom, a promulgué une série de textes pour réglementer les chatbots, et ce malgré les pressions de la Maison-Blanche qui s'oppose encore à toute régulation de l'IA sur le territoire. Le gouverneur californien a déclaré dans un communiqué avoir constaté des exemples tragiques de jeunes victimes de technologies peu régulées et refuse, je cite, de rester les bras croisés pendant que des entreprises exercent sans limite et sans rendre de compte. Il en appelle à la responsabilité des États-Unis, leader en matière d'IA, et à la nécessité de protéger les jeunes. À l'origine de ce texte, on retrouve également le sénateur californien Steve Padilla, qui dénonce l'industrie technologique qui est, je cite, encouragée à capter l'attention des jeunes et à la retenir au détriment de leurs relations dans le monde réel. Cette loi, baptisée SB 243, prévoit de mettre en place plusieurs mesures. Les éditeurs de chatbots, on peut citer parmi les plus utilisés OpenAI, CharacterAI, Meta, Google ou encore Replica, devront obligatoirement vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Ils devront également afficher régulièrement, toutes les 3 heures pour les mineurs, des messages rappelant à l'internaute que son interlocuteur est une machine. En plus de cela, la loi prévoit d'empêcher les mineurs de voir des images à caractère sexuel générées par le chatbot. Enfin, des protocoles de prévention de suicide et d'automutilation devront être mis en place. Le texte de loi rend toutes les entreprises juridiquement responsables si leur agent conversationnel faillit à ses obligations et prévoit pour l'instant des sanctions financières à hauteur de 1 000 $ par infraction.
Une loi adoptée suite à de nombreux épisodes tragiques dans le pays, n'est-ce pas Clara ?
En effet, la signature de cette loi de régulation fait suite entre autres à la pression de nombreuses familles. L'affaire qui a remis le projet de loi sur la table est le suicide d'Adam Rain, un adolescent de 16 ans, le 11 avril 2025, après plus de 6 mois d'échanges avec ChatGPT. Les parents du jeune garçon ont porté plainte contre OpenAI et son patron Sam Altman, en affirmant que le chatbot se serait imposé comme le seul confident qui comprenait Adam, remplaçant ses relations réelles. Il aurait alimenté les pensées suicidaires du garçon et lui aurait même donné des conseils pour écrire sa lettre d'adieu. Ce cas est malheureusement loin d'être isolé, on peut dénombrer plusieurs cas similaires au cours des dernières années. Sewell Sutzer, 14 ans, met fin à ses jours en février 2024 après avoir développé une relation amoureuse avec Danny, son chatbot développé par Character AI. Plus récemment encore, dans le Colorado, le même drame survient avec une fillette de 13 ans qui entretenait des échanges à caractère sexuel avec un chatbot de la même entreprise. Ces constats enclenchent donc de réelles prises de conscience et, en reprenant les mots du gouverneur californien, illustrent le fait que les technologies émergentes comme les chatbots et les réseaux sociaux peuvent être source d'inspiration, éduquer et relier les gens, mais sans véritable garde-fou, elles peuvent aussi exploiter, égarer et mettre en danger nos enfants.
Et les entreprises contrôlant ces intelligences artificielles, comment réagissent-elles à tout cela ?
Excellente question, dont la réponse n'est pas si évidente. Prenons l'exemple d'OpenAI. Suite au suicide d'Adam Rain, l'entreprise est accusée de mort injustifiée, de défaut de conception et de manquement à l'obligation d'alerte sur les risques liés à ChatGPT. En réaction à cela, l'entreprise a reconnu que les mesures de sécurité mises en place pouvaient se dégrader lors de longues conversations et promet de mettre en place de nouvelles mesures pour que ces situations ne se renouvellent pas. Parmi ces promesses, l'introduction de contrôles parentaux qui permettent aux parents de recevoir une notification lorsque l'IA détecte un moment de détresse aiguë, ou encore la possibilité de détecter si le chatbot parle avec une personne majeure ou mineure en adaptant le contenu en conséquence, donc en bloquant pour les moins de 18 ans les contenus à caractère sexuel explicite. Quelques semaines après, pas plus tard que mardi, le patron de l'entreprise, Sam Altman, annonce que ChatGPT autorisera tout de même les conversations érotiques, uniquement pour les adultes, invoquant le fait que la création de ces garde-fous suffirait à protéger les utilisateurs mineurs. À voir donc si ces mesures suffiront à protéger les adolescents les plus vulnérables, ou si certains États suivront l'exemple de la Californie en termes de régulation des intelligences artificielles.
Merci Clara, une affaire qui reste donc à suivre, et à noter que ces nouvelles mesures de régulation entreront en vigueur en Californie à partir du 1er janvier 2026.
Le 18 avril, la Maison Internationale Populaire, plus communément appelée la MIP, ouvrait ses portes. Ce squat anarchiste autogéré de Tours propose depuis la fin de la trêve hivernale un toit à des personnes sans logement. Au micro de Lucie Feuillolet, Germaine, bénévole à la MIP, présente le projet.
Oui, c'est même complètement illégal d'être là. Ces bâtiments étaient vides depuis une dizaine d'années et c'est complètement illégal de rentrer dedans et de proposer à des gens qui sont à la rue d'y dormir. Il y a eu du coup un dépôt de plainte de la propriétaire des lieux, qui est la SET, la Société d'aménagement de Touraine, qui est un aménageur semi-public. Et le tribunal de Tours a rendu un verdict début juillet, fin juin, je ne sais plus, qui nous donnait un délai de 4 mois pour être expulsés. Donc ça, ça nous amène au 13 décembre, le 13-12. Et bon, a priori, c'est la trêve hivernale sera en place, donc ce sera difficile de nous les loger, parce que de toute façon, il n'y aura pas de solution d'hébergement pour ces personnes. Voilà, il faut savoir que ces 4 mois-là, ça représente paradoxalement une victoire dans le contexte juridique des squats actuels en France. Ce délai-là, il a été accordé parce que on a su démontrer que, en fait, on remplissait une place dans l'hébergement à Tours qui représente une défaillance des pouvoirs publics à côté. Et j'en veux pour preuve que dans la première semaine où ce lieu a été ouvert, dans les tout premiers jours, il y a et la police municipale et le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, et le 115 lui-même qui a envoyé des gens en disant « Je suis désolé, nous n'avons plus de place, mais peut-être allez voir dans ce squat illégal. » Donc c'est pour dire à quel point les pouvoirs publics sont défaillants, au point qu'ils sont obligés de renvoyer vers des initiatives citoyennes autonomes comme ça, de squat, pour proposer à des familles avec enfants ne pas dormir dehors, quoi. La fin de la trêve hivernale 2025-2026, c'est le 1er avril 2026, du coup. Il se trouve que parallèlement à ça, la mairie de Tours est en train de faire des travaux dans un autre bâtiment vide pour proposer un hébergement d'urgence aux personnes qui sont actuellement à la MIP. Voilà, les travaux sont en cours.
Il est 7h33, vous écoutez Good Morning Tour, et pour écouter la suite de cette série de Lucie Feuillolet, restez branchés sur le 99.5. Tout de suite, on fait une nouvelle pause musicale avec le nouveau titre de Giorgio en featuring avec Némir, Fleur.
Si je fais un move pour toi, c'est de bon cœur, t'as pas à t'en rappeler. Une fois dans l'année, je déprime en profondeur, je reste en apnée. Je remonte à la surface, quoi qu'il se passe. J'ai mes deux bras, deux jambes, c'est pas si naze. Rien à faire de l'argent des autres, je m'émerveille devant des battements d'ailes. Y'a des espèces qui se font rares comme des crashs dans le ciel. Pensez pour moi-même comme Marc Aurèle. J'espère passer l'âge du Christ, éviter la crise de la quarantaine. Déjà petit, on m'a dit contrôle tes pulsions, ta colère. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. Paraît que l'essentiel est invisible pour les yeux. Je pense à mes ancêtres sous une terre poussiéreuse. C'est nous les plus haineux. Pas de je t'aime sans une insulte. Comme ça on reste dans notre confort. Et au final ça nous rassure. Mais je veux plus de ça. Et quoi qu'il arrive, je me rapproche des étoiles quand je vise la lune.
J'ai roulé toute la nuit, je crois que je perds le contact, hey. Même en changeant de vie, j'ai fait le même constat, hey. On fait pas la paix avec tes
et je deviens menaçant. Nous on fait que d'entendre que c'était mieux avant. Il faudrait quoi qu'on s'arrête de vivre. On fait déjà comme on peut. Les meilleurs partent en premier, on fait sans eux. Parfois je critique les autres et je me sens aussi lâche. J'ai des potes nés après le premier album de Gorillaz. Ça change quoi au final, ça change rien, c'est que des chiffres. Si t'es dans un bad mood, dis-toi que c'est que des cycles. Je donne mon pardon à tous, mais y'a pas tout qui se pardonne. Bousillé par le rap, les OGM et l'uranium. Je connais peu de missions, aussi dur qu'élever un homme. Regarde comment on se comporte, on est moins droit que le métronome. Vu sur les neiges éternelles pour me rappeler qu'on l'est pas. Millionnaire seulement en français CFA et j'ai le choix. Contourner les obstacles ou les affronter. Là je suis perdu dans mes pensées.
J'ai roulé toute la nuit, je crois que je perds le contact, hey. Même en changeant de vie, j'ai fait le même constat, hey. On fait pas la paix avec tes flammes. J'aime jouer avec mes pas. J'ai roulé toute la nuit, je crois que je perds le contact. Même en changeant de vie, j'ai fait le même constat. Fais pas la paix avec tes flammes. J'aime jouer avec mes pas.
C'était le titre Fleur de Giorgio et Némir. Vous êtes toujours sur Good Morning Tour et on retourne maintenant dans l'actualité. Direction l'Amérique latine où le Pérou subit une nouvelle crise politique. Après une vague de manifestations dans le pays, la présidente Dina Boluarte a été destituée vendredi dernier par le Parlement. Une action qui ne calme pas la colère de la classe populaire. Mercredi, en marge d'une manifestation à Lima, des centaines de personnes ont été blessées et un homme tué. Mais alors, que se passe-t-il ? Explication par Maya Dubos.
Incapacité morale permanente. C'est le motif présenté par le Parlement pour destituer la présidente. Au cours de la journée du vendredi, l'ensemble des forces politiques du Parlement ont déposé 5 motions de destitution. Dans la rue, la jeunesse crie son ras-le-bol. Elle en a marre de l'insécurité, de la répression et d'une présidente rejetée par plus de 90% des Péruviens.
Son impopularité peut s'entendre, elle n'a jamais été élue.
Oui, et c'est là tout le problème. Dina Boluarte était la vice-présidente de Pedro Castillo. Sauf que ce dernier, en décembre 2022, est destitué par le Congrès. Elle prend donc automatiquement la tête de l'État. Ce poste, elle ne voulait pas le lâcher. L'ex-présidente s'y accrochait, coûte que coûte. Pendant que la population réclamait de nouvelles élections, elle restait inflexible. Son mot d'ordre, attendre à la fin du mandat de Pedro Castillo, en avril 2026.
On le sait, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais quelle est la situation une semaine après ?
Aujourd'hui, c'est José Reilly, président du Parlement, qui a pris la tête de l'État. Pour la population, la destitution n'était qu'une première étape. Ces derniers réclament la démission du président du Congrès, car ils estiment que ces autres institutions sont corrompues et déconnectées de la réalité. Ces demandes ne sont pas nouvelles. Le pays vit une grande crise d'instabilité politique. En 9 ans, les Péruviens ont vu passer 6 présidents, un record. Si, en théorie, ce nouveau président devrait rester jusqu'aux prochaines élections présidentielles, dans la pratique, c'est loin d'être gagné. Son profil passe mal dans l'opinion. Il est visé par une enquête pour enrichissement illicite et a fait l'objet d'une plainte pour viol qui a été classée sans suite.
En parallèle de cette crise politique, plusieurs candidats se sont officiellement déclarés. Parmi eux, le maire de Lima ultra-conservateur, Rafael López Aliaga, fervent admirateur de Donald Trump. Le futur président, une affaire qui reste à suivre. Cédric Jubilard, coupable ou non coupable, l'accusé de 38 ans, accusé du meurtre de sa femme Delphine en 2020, connaîtra son sort dans la journée. Hier, son avocate a pu s'exprimer une dernière fois en son nom.
Un coupable tout trouvé. L'avocate de Cédric Jubilard a pointé le faible faisceau d'indices dans la procédure qui incrimine son client. En l'absence de corps retrouvé, le mystère demeure autour des circonstances de la disparition de Delphine Jubilard. L'accusé de 38 ans n'a jamais avoué avoir tué sa femme le soir du 15 décembre 2020. Il faut regarder la qualité des indices, sur quoi ils portent et s'ils sont convergents, a répondu l'avocate de la Défense aux deux représentants du ministère public qui ont requis 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Cédric Jubilard mercredi. Après plus de 3 heures de plaidoirie, les avocats de la Défense ont appelé à acquitter l'accusé. Cédric Jubilard a la possibilité de s'exprimer une dernière fois ce matin devant la cour d'assises d'Albi avant que la présidente du jury et les jurés se retirent et délibèrent pour rendre le verdict attendu dans la journée.
Coupable ou non coupable, après plus de 4 ans et demi d'enquête, Cédric Jubilard et les parties civiles seront fixés. Il est 7h40 et tout de suite, un nouveau point sur les informations avec Angelina Richard.
Le gouvernement Lecornu reste. Hier, l'Assemblée examinait deux motions de censure à l'encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu, alors qu'il avait annoncé ne pas user du 49-3 et suspendre la réforme des retraites. Le Premier ministre est alors avancé au pupitre de l'Assemblée pour convaincre les groupes qui doutaient encore, comme le PS ou une partie de la droite. Marché réussi puisque les deux motions n'ont pas atteint le nombre de députés requis. Au procès Jubilard, après 3 semaines d'audience, le verdict est attendu aujourd'hui. Cédric Jubilard est accusé d'avoir tué sa femme Delphine Jubilard il y a 4 ans. Les avocats généraux ont requis 30 ans de réclusion criminelle à son encontre. Le jury doit désormais trancher. Bien que le Hamas ait réaffirmé son engagement envers la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu à Gaza, Israël les accuse pourtant de violer les accords en continuant à retenir le corps de 19 otages. À Washington, l'ambassadrice d'Ukraine accuse Moscou de saboter les efforts de paix. Selon elle, la Russie a choisi les missiles plutôt que le dialogue, après une nouvelle vague de frappe qui a plongé une partie du pays dans le Loir la nuit dernière. Le Paris Saint-Germain est de nouveau chuté hier à domicile face au Real Madrid lors de la deuxième journée de la phase de la Ligue des Champions féminines. Les joueuses se sont inclinées 2-1.
C'est ce genre d'histoires qui nous font vibrer et qui nous font aimer le sport. Le week-end dernier s'est tenue la finale du Master 1000 de Shanghai, à l'issue de laquelle le monégasque Valentin Vacherot est sorti vainqueur face à son cousin, le français Arthur Rinderknecht. Un match familial historique dans un des plus importants tournois de tennis de l'année. Une belle histoire racontée par Esther Laborde.
Mais qu'est-ce qu'on fait là avec Arthur ? Voilà ce que s'est demandé Valentin Vacherot en atteignant cette finale du Masters 1000 de Shanghai. Mené d'une manche à rien par son cousin, le Monégasque est monté en puissance tout au long du match. Résultat final 4-6, 6-3, 6-3 et un bond, tenez-vous bien, de 164 places pour le vainqueur surprise au classement ATP, passant de la 204e place à la 40e place, ce qui est absolument phénoménal. Mais cette cousinade n'a pas pour autant éclipsé l'exploit des deux joueurs en Chine. En vérité, depuis le début de ce tournoi, rien, absolument rien, ne paraissait rationnel. Le vainqueur, Valentin Vachereau, est devenu le joueur le moins bien classé de l'Air Open à s'imposer sur un tournoi de cette catégorie. Et c'est tout à son honneur au vu du niveau des joueurs affrontés tout au long de cette quinzaine. Alexander Bublik, 17e au classement ATP, Holger Rune, 11e, ou encore un certain Novak Djokovic, 5e, affronté en demi-finale, la plus grande victoire de sa carrière. Quant à son cousin germain, Arthur, classé 54e avant le tournoi, son parcours est tout aussi hallucinant. Le Français a réussi à se défaire de quelques grands noms du tennis actuel, Alexander Zverev, 3e, Daniil Medvedev, 14e, ou encore Félix Auger-Aliassime, 13e, pour se faire battre finalement par son cousin, qui le connaît par cœur. Cette défaite en finale n'a malheureusement pas permis à Rinderknecht de rejoindre Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean et Joe Wilfried Tsonga, derniers titrés en 2014 dans la liste des vainqueurs français de Masters 1000. Après un gain de 26 positions, le Français se retrouve tout de même 28e mondial.
A noter que les Masters 1000 sont souvent l'occasion de belles surprises. En effet, sur les 17 derniers Masters 1000, les deux géants du tennis actuel, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, n'en ont remporté que 7. Vous avez entendu il y a quelques minutes Germaine, bénévole à la MIP, qui a présenté le projet. Lucie Feuillolet donne maintenant la parole à un bénéficiaire.
Bah, moi, je suis Colomba Souris, j'ai 23 ans. Ça fait un an, 6 mois que je suis à Tours maintenant. Je suis venu à Tours, j'avais un appartement, j'ai travaillé et tout. Mais j'ai eu un problème, c'est la raison pour laquelle j'ai perdu mon appartement. Donc c'est pourquoi je suis là. Quand j'avais perdu mon appartement, donc on m'a parlé qu'il y a un endroit ici, il héberge les gens comme ça. Même si tu n'as pas d'argent, tu peux t'installer pour trouver la solution, etc. C'est la raison pour laquelle moi je suis là. Donc ça fait un mois que je suis là. Et puis il y a beaucoup de monde, il y a plein d'origines, nationalités. Ben, on est tous pareils en fait. Ben, les gens ici, c'est tranquille, tu rentres quand tu veux. Ben, vraiment, c'est simple, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment sympa, quoi. On est tous ensemble. Vous faites tous ensemble, comme vous voyez les gens. Ils sont vraiment sympas, quoi. C'est vraiment l'ambiance. Si tu es là, tu rencontres les amis pleins des personnes. Donc, même si tu as un souci, tu vas pas... ça va, quoi. Ça passe, quoi.
On se serre les coudes.
Voilà, c'est ça. Vu que j'ai trouvé la solution, dans une semaine, je vais repartir encore. Mais vraiment, c'est cool, quoi. Même si je suis reparti, je viendrai de temps en temps pour saluer les gens. Donc, le moment que j'étais là, c'était très cool.
Et moi, je m'appelle Maïti. Communément, tout le monde m'appelle Maïti, mon nom d'artiste. Et j'ai mes 25 ans. Donc, je suis d'origine de Guinée-Conakry. Je suis à la MIP. À peu près, ça fait au moins 4 à 3 mois comme ça que je suis là. Donc voilà quoi. Et ben là, je ne suis pas toute seule, je suis en famille, ouais, avec 2 enfants et leur maman. Ben, avant, j'étais à Tours ici, parce que mon arrivée en Europe ici, c'est direct Tours. Donc ça fait au moins 3 ans que je suis là. Avant moi, j'habite ailleurs, j'habite toujours ailleurs, mais vu qu'avec... La fille que je suis, elle n'a pas de place, donc là où elle est, je suis avec elle au fait. On s'est croisés ici, ça fait 2 ans, 3 mois comme ça que je suis avec elle. Pourquoi j'aime beaucoup la MIP? Déjà, il y a une bonne partage, il y a une bonne communication entre les bénévoles et les bénéficiaires. Et moi, je trouve ça, c'est super, quoi. Tu vois, quand tu viens à la MIP, tu te sens chez toi, quoi. Il n'y a pas, comment je peux dire, il y a l'égalité, quoi. Il y a l'égalité à la MIP, puis personne n'est supérieur à l'autre, voilà, quoi. Ça me fait du bien de venir d'être là à la MIP. Déjà, peut-être le 11 octobre, on a un événement ici que je dois faire ici avec mon ami. Donc ça me fait beaucoup plaisir.
Je m'appelle Miranda Ivanova et j'habite à la MIP, ça fait 3-4 mois, oui, c'est ça. Et j'ai 25 ans. Je faisais la demande d'asile. Donc j'étais tout le temps à salle 15. Donc comme mon asile s'était fini, on n'a pas de place et tout ça. Donc maintenant on est à la MIP. On a dormi beaucoup dans la rue, donc ça va maintenant avec la MIP. Ça va mieux. C'est mieux plus que dehors quand même. Oui, on fait tous ensemble. Parfois, on prépare tout ça pour tout le monde. On fait parfois les concerts aussi. Il y a des fêtes, il y a l'anniversaire de la MIP. Et beaucoup, beaucoup de choses. Il y a l'animation pour les enfants et tout ça.
Pour déposer vos dons, rendez-vous au 178 rue Walvein à Tours. Une cagnotte Litchi est également disponible. De notre côté, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour découvrir le dernier épisode de cette série d'interviews à la Maison Internationale Populaire. On vous laisse maintenant avec une dernière pause musicale avec le titre Florida de Taylor Swift, accompagné de Florence and the Machine.
You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat, I guess it must be true. And my friends all smell like weed or little babies. And the city reeks of driving myself crazy. Little did you know your home's really only a town you're just a guest in. So you work your life away just to pay for a timeshare down in Destin, Florida.
Hurricane was my name when it came. I got drunk and I dared it to wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle of wine. Well, me and my ghost.
You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat. I guess it must be true. And my friends all smell like weed or little baby. And the city reeks of driving myself crazy. Little did you know your home's really only a town you're just a guest in. So you work your life away just to pay for a timeshare down in Destin, Florida.
Hurricane was my name when it came. I got drunk and I dared it to wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle of wine. Well, me and my ghost, we had a hell of a time. Yes, I'm haunted, but I'm feeling just fine. All my girls got their lace and their crimes. And your cheating husband disappeared. Well, no one asks any questions here. So I did my best to lay to rest all of the bodies that have ever been on my body and in my mind. They sink into the swamp. Is that a bad thing to say in a song? Little did you know you're hungry. Only the time you'll get arrested. So you pack your life away just to wait out the shitstorm back in Texas, Florida.
C'était le titre Florida de Taylor Swift et Florence and the Machine. Icône pop des années 80, Lio a traversé les décennies sans jamais se taire. Avec son dernier album, la chanteuse est bien décidée à le prouver. Tristan Le Guillou la suit dans la réalisation de cet album dans un documentaire disponible depuis une semaine sur France Télévisions. Retour sur celle qui a su marquer le cœur des Français.
Vous la connaissez sûrement pour son tube Banana Split ou bien Les Brunes ne comptent pas pour des prunes.
C'est l'abominable enfant qui n'est qu'un amour de dessert.
La chanteuse Lio naît dans une petite ville du Portugal dans les années 60. Elle débute sa carrière avec des tubes au style Baby Doll, Lolita. Au début, personne ne voit le problème de laisser chanter une adolescente de 15 ans, de laisser une adolescente chanter un titre avec à connotation sexuelle. À l'époque, Lio souhaite juste être une fille cool, mais elle va très vite le comprendre. Être une femme dans le monde de la culture, ce n'est pas toujours aussi simple. Si post-MeToo, les langues se dénouent, la chanteuse a fait du féminisme son combat, avant même que ça soit un argument marketing pour une artiste. Sur les plateaux de télévision, à la radio, Lio a été traînée dans la boue, vue comme too much quand elle parlait de violence conjugale ou sexuelle. Cette violence, Lio l'a connue très tôt. Dans le documentaire, elle se confie, la voix tremblante. À 10 ans, assise sur la banquette arrière de la voiture de ses parents, Lio a été violée par un ami de la famille. Un acte de pédophilie qui donne la nausée. Ses prises de position sur la violence conjugale arrivent très tôt, comme un écho à sa propre situation. Avec Zad, son ex-mari au passé violent. Il va jusqu'à la frapper, la violer, parfois même devant leurs enfants. En 1999, il est condamné à 6 mois de prison, dont 4 avec sursis, ainsi qu'une obligation de soins et interdiction de l'approcher. L'événement le plus marquant ressorti dernièrement est sa prise de position dans l'affaire Marie Trintignant. Quand son ami meurt sous les coups de Bertrand Cantat, le chanteur du groupe Noir Désir, Lio est la première à refuser le mot « crime passionnel ».
Moi, ce que je sais, c'est que Marie est morte avec un visage qui était détruit comme après un accident de moto eu à 120 à l'heure. Et ce sont les mots mêmes des médecins. Maintenant, dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c'est la passion et l'amour qui l'ont tué, non, l'amour n'apporte pas la mort. Ou alors, c'est une erreur.
Folle, hystérique ou too much, elle se fait à l'époque traiter de tous les noms par un système qui, lui, ne dit pas son nom. Mais au-delà des traînées de boue, la chanteuse a aussi redonné beaucoup d'espoir aux jeunes femmes. Avec son ventre rond et ses 26 kilos en plus, elle a prouvé que la grossesse n'est pas, a fortiori, un break dans une carrière de chanteuse. Militante et fémène, elle n'a cessé d'affirmer ses positions. Ce ne sont pas les femmes qui font la guerre aux hommes, c'est les hommes qui font la guerre aux femmes, rappelle-t-elle. Son prochain album est une lettre d'amour à toutes ces femmes. Elles m'ont aimée, protégée. Les hommes, eux, m'ont dominée. Lio, c'est plus qu'une chanteuse, finalement, c'est une voix qui s'est brisée pour mieux se faire entendre. Et 40 ans plus tard, elle continue de chanter, pour elle et pour toutes les autres.
Le documentaire consacré à Lio est signé Tristan Le Guillou et est à découvrir sur France Télévisions jusqu'en avril prochain. Un moment particulièrement émouvant où elle rend aussi hommage à son fils Diego, disparu en mars dernier. On arrive déjà sur la fin de cette 4e matinale de la saison, mais avant de se quitter, on va retrouver Inès Figuigui avec son billet d'humeur. Inès, c'est à toi.
Eh oui, un jour j'ai compris que j'étais lesbienne. Même si je le savais depuis le début, sans vraiment me l'avouer en vrai, c'est dur à comprendre quand on est une femme qui grandit dans une société brossée par le patriarcat. Ouais, petit coup de gueule de bon matin. Quand t'es un homme cisgenre et hétéro, t'as tous les pouvoirs. Mais quand tu l'es pas, bonjour les problèmes. Déjà, faut se sentir légitime dans son désir. Est-ce que je suis vraiment attirée par les femmes? Et si tout était faux et que je fréquente cette personne juste pour l'expérience? Ça, c'était vraiment ma plus grande peur. Peut-être que je suis trop empathique ou humaine, on sait pas. Mais par moments, les doutes sont terrassés par des électrochocs, comme le clip de Rihanna et Shakira. C'est censé être le bruit d'un électrochoc. Ou ces filles croisées en primaire, au collège ou au lycée. Est-ce que je veux être elle ou être avec elle? Donc là, logiquement, tu te dis, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font pencher la balance, non? Mais que nenni! C'était sans compter la grande, l'unique, celle qui fait couler des larmes, j'ai nommé la validation masculine. Tu sais, c'est ce sentiment quand malgré tout ton féminisme, malgré tous tes efforts pour sortir de la matrice, ta valeur dépend quand même d'un homme 6-7. T'enchaînes des relations médiocres pour améliorer ton estime de soi, tu t'en doutes, ça marche pas. Donc en plus de manquer d'estime de soi, tu n'as maintenant plus confiance en toi. Top. Et en vrai, ça sert à rien de s'autoflageller, c'est vraiment un cheminement. J'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre, je suis quand même revenue chez mon ex avec le livre « Spoiler alert, vous êtes lesbienne » et j'ai pas rompu avec lui pour autant. Denial is a river in Egypt. Your husband is gay. C'est à force d'écouter des podcasts, d'enchaîner des expériences romantiques foireuses avec des hommes et enfin de m'écouter que j'ai compris. Et là, tout à coup, c'était plus calme dans ma tête. Bref, j'ai compris que... Je préfère les filles, les femmes, les meufs.
Il est 7h57 et c'est maintenant la fin de cette matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Un grand merci aux auditeurs d'avoir passé ce début de journée avec nous et merci aussi à tous les participants, Angelina Richard, Alia Trabelsi, Clara Danry, Lucie Feuillolet, Maya Dubos, Mathis Maudet, Esther Laborde, Clara Baudard, Inès Figigui, ainsi que Jules Frécon qui a également aujourd'hui assuré la technique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous, bonne journée à toutes et à tous.